الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم Donc mes frères, inshallah, nous allons poursuivre notre traduction et commentaire des quelques versets du Coran Sharif. Et nous débutons aujourd'hui, inshallah, par le 14e sipara, le 14e juz, selon la méthode qui a jusqu'à présent été proposée, c'est-à-dire en trois parties. Une partie qui concerne le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, les règlements, les aqaïd également, les croyances. Deuxième partie qui concerne les péchés qui sont mentionnés dans le Coran Sharif, afin qu'on puisse, inshallah, éviter cela ou alors avertir d'autres personnes. Et une troisième partie qui est celle de la tazkiya, c'est-à-dire comment embellir son comportement, ses caractères et les qualités qu'on devrait essayer d'adopter. Donc dans ce 14e juz, ce 14e sipara, Allah tabaraka wa ta'ala donc commence une sourah qui est vers la fin du 13e sipara, qui est la sourate al-Hijr. Et une autre sourate également est débutée, sourate al-Nahl. Donc inshallah, on essaiera de voir en quelques points quelques versets du Coran Sharif. Et justement, puisque c'est un tafsir et commentaire du Coran Sharif, le premier point qu'on va aborder, c'est qu'appelle-t-on le Coran? Qu'est-ce qu'on appelle Coran? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ça peut nous permettre de comprendre que la récitation du Coran en elle-même, la correcte prononciation du Coran, est également un but recherché. Parfois, vous avez des gens qui nous disent que, certes, vous lisez le Coran Sharif, ou bien on lit le Coran Sharif, on apprend le Coran Sharif, mais on ne comprend pas le sens. Il est évident que le but recherché du Coran Sharif, c'est sa pratique. Le but, on va dire, asal maqsad, c'est quoi? C'est la pratique du Coran Sharif. Mais malgré tout, Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il parle des devoirs, ou plutôt des responsabilités des prophètes, des anbiya alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Yatlu alayhim ayatihi, qu'ils vont réciter les versets, wa yuzakkihim, qu'ils vont purifier les gens, wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikma. Et les commentateurs du Coran Sharif, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi principalement, il explique que justement les mots du Coran Sharif en eux-mêmes, ça c'est une responsabilité des anbiya alayhi salatu wassalam. Ce qui veut dire que d'apprendre le tajwid, d'apprendre la récitation du Coran Sharif en lui-même, ça c'est quelque chose de voulu par Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est justement la définition du Coran Sharif, ça comprend très simplement deux sens. Ça veut dire deux mots plutôt. Il y a les mots du Coran Sharif, Inna Qaruna kana min qawm Musa, par exemple, et il y a les sens de ces mots. Alors pourquoi Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il a mentionné ça? Il nous dit parce que, regardez, si par exemple, vous allez prendre un livre quelconque. En général, les livres de l'islam, ce sont des thèmes qui sont développés. Les thèmes qui sont développés proviennent du Coran Sharif. Mais pourtant, ces livres, par exemple, un livre sur l'histoire des prophètes, vous n'allez pas dire que ce livre, c'est le Coran, bien qu'il reprend le sens qui est mentionné dans le Coran Sharif. Pourquoi? Parce que les mots du Coran Sharif ne sont pas présents. Donc, on apprend que les mots du Coran Sharif sont importants. Et les sens du Coran Sharif également sont importants. Et lorsqu'il y aura ces deux éléments qui seront retrouvés, alors on appellera ça Coran Sharif. Et il embraye, on va dire, là-dessus, il nous dit que c'est pour ça. Aujourd'hui, vous trouvez parfois, malheureusement, des traductions du Coran Sharif. Mais des traductions sans les mots du Coran Sharif, c'est-à-dire sans l'arabe, qu'elles soient en anglais, en ourdou, en français, ou en quelle que soit la langue, uniquement les traductions. Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il dit, il n'est pas permis d'avoir ce genre de livre. Je vais lire la parole. Aussi, c'est Yemas Alabi Ma'loum Hogeya, qui si Zuban, ou Urdu, ou Ingrizi, ou Agherami, ou Sirf Tarjuma, Quran, Kashayan, Kalke, Log, Usko Urdu, ou Ingrizi, Quran, Nam, Kadeta, Hiye, Hargiz, Jaizne. On ne peut pas appeler ça Quran, parce qu'il n'y a pas les mots du Quran, il y a uniquement le sens. Vous avez compris? En revanche, lorsqu'il y a traduction plus les versets, alors là, vous pouvez dire que c'est quelque chose qui est donc permis. Ensuite, par rapport à d'autres mas'alas, après avoir développé ce point-là brièvement, qu'on peut voir, c'est quoi? C'est un autre domaine. C'est dans la sourate An-Nahl, justement. Allah tabarak wa ta'ala, à un moment, il nous parle des bestiaux. Et il nous dit, « Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun » que parmi les créatures d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a donc les bestiaux, il y a les chameaux, etc. Donc Allah t'a dit, il a créé cela pour vous, et parmi ces animaux-là, vous consommez également de leur viande. Et ensuite, un peu plus loin, Allah Ta'ala, il mentionne d'autres animaux. Il dit wal khayla wal birala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah a créé également les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez, c'est-à-dire c'est un moyen de locomotion pour vous, de transport, et pour l'apparat, ça veut dire c'est un moyen d'embellissement. C'est, ça apporte, on va dire, la beauté. D'ailleurs, on y viendra inshallah tout de suite inshallah. Et wa yakhluqu ma la ta'lamun, et il crée ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire Allah Ta'ala, à l'époque de la révélation du Coran Sharif, il nous dit également qu'il y aura d'autres moyens de locomotion qui ne sont pas présents dans votre époque des Sahaba, mais qui viendront. Et Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah, il dit que son père disait que son professeur, donc son père Hazrat Maulana Muhammad Yasin Sahib rahmatullah alayh, il dit que son oustaz Hazrat Maulana Muhammad Yaqub Sahib Nanotwi rahmatullah alayh, il dit qu'à travers ce ayat, Allah Ta'ala avait déjà, on va dire, fait une indication qu'il y aura les voitures, qu'il y aura, etc., les moteurs, etc., qui viendront. Donc ça, c'est pour le plaisir, on va dire, par rapport à ça. Mais ce que Mufti Shafi Sahib Rahmatullah veut nous faire comprendre, c'est quoi? C'est que regardez, d'un côté, Allah Ta'ala, il a parlé des bestiaux, des chameaux, etc. Il a dit là-bas, vous mangez de cela. Mais pour ce qui est du cheval, des mules et des ânes, Allah Tabarak wa Ta'ala dit que c'est des moyens de locomotion et c'est pour l'apparat, c'est pour la beauté. On apprend donc à travers cette indication et également à travers des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que la consommation de la viande d'âne et des mulets, elle est interdite. Là-dessus, il n'y a aucune divergence. En revanche, pour ce qui est du cheval, alors on trouve des dala'il, c'est-à-dire des preuves qui, certaines de ces preuves, elles permettent, c'est-à-dire elles donnent l'autorisation de la consommation du cheval, et d'autres disent que non. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, lui, en voyant donc cela, qu'il y a des preuves qui autorisent et d'autres qui interdisent, il ne l'a pas interdit, mais il considère cela comme makrouh, c'est-à-dire déconseillé la consommation donc de la viande de cheval. Ensuite, par rapport justement à ce mot-là, wazina, on a dit l'apparat et la beauté. Et dans un autre hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal » Allah ta'ala, on va dire que c'est la source même de la beauté, et Allah ta'ala aime la beauté. Maintenant, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, qui reprend les mots de Hadith Ma'ana Ta'ani rahmatullah alayhi, il dit qu'il y a deux mots, il y a jamal et zina, ça veut dire, si vous voulez, la beauté, l'apparat, et d'un autre côté, il y a takabbur et fakhr, c'est-à-dire l'orgueil et pour faire montrer, si vous voulez, aux gens. Et Ma'ana Ta'ani rahmatullah alayhi, il explique, il dit que le zina, d'avoir quelque chose de beau, hein, en lui-même, ce n'est pas interdit. Et il définit cela, et c'est important. D'ailleurs, en ce sens, il est dit aussi dans un hadith sharif parfois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah ta'ala yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi » ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala, il aime également voir les bienfaits qu'il a donnés à quelqu'un sur cette personne-là. Alors ce zina-là, comme on a dit tout à l'heure, « Inna Allah ta'ala jamilun yuhibbu jamal » dans un autre hadith sharif également, il est mentionné qu'une fois, quelqu'un il a demandé au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui aime bien s'habiller, il aime bien se vêtir, etc. Est-ce que ça fait partie de l'orgueil? Non, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ça, ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Al-kibru bataru al-haq wa ghamtu an-nas. C'est également ce que Ma'ana Ta'ani rahmatullah a dit. Le kibre, c'est quoi? Bataru al-haq, c'est que lorsqu'on vous dit la vérité, vous refusez cette vérité. Et vous dégradez les gens, c'est-à-dire vous les considérez comme insignifiants. Et justement, donc on revient, zina et jamal, c'est quoi? C'est lorsque par exemple je vais bien m'habiller, pourquoi? Pour le contentement de mon cœur et pour montrer les bienfaits d'Allah Ta'ala. Néanmoins, il ne se considère pas digne de ce bienfait. Ça c'est important, c'est par rapport à cette zina-là. Il n'est pas digne de ce bienfait, que ce soit pour la connaissance, que ce soit pour les qira'a, que ce soit pour les vêtements, les voitures, etc. On n'est pas digne de ce bienfait et je ne me prends pas supérieur aux gens et donc forcément je ne les considère pas comme inférieur à cela. Mais il garde à l'esprit que c'est une faveur d'Allah tabarak wa ta'ala. Et si on ne retrouve pas ça, si ça amène justement, on va dire, cet orgueil-là, si on pense qu'on est supérieur aux autres, si on pense qu'on mérite cela et considère les autres comme inférieurs, alors là, ça sera du takabbur, ça sera de l'orgueil. Une parole de mon cher Hadith Ma'ana Abdul Hamid, Dam Barakatuhum, me revient à l'esprit. qui lui-même l'a repris de son cher Hadat Mawlana Shah Muhammad Hakim Akhtar Sahab Dam Barakatuhum, qui dit, puisque dans un hadith shalif il est dit que même si on aura un atome d'orgueil dans le cœur, alors on n'entrera pas au paradis. Ça veut dire directement, il faudra purifier par rapport à cela. Et Mawlana Abdul Hamid Dam Barakatuhum, il nous dit, il rapporte de son cher, qu'un moyen facile de se protéger contre le takabbur, c'est quoi? C'est tashakkur. Ça veut dire remercier Allah Ta'ala. Au lieu d'avoir de l'orgueil, dites Alhamdulillah, ça vient d'Allah. Mon Abraru Haqsab Rahmatullah Ali également, si je me souviens, il disait ça, on a entendu cette parole, que ce bienfait, il provient de la part d'Allah Ta'ala. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon kamal. Et les sahaba, radiallahu anhum, ajib, avec quelle simplicité, parfois il disait, Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhum, il disait clairement dans Bukhari Sharif à un moment, il y a, que certes c'est vrai, je suis plus savant que vous, mais ce n'est pas pour ça que je suis meilleur que vous. Et d'autres ulama, ils expliquent également ça. Ils disent qu'il y a une différence entre akmaliyat et afwaliyat. Akmaliyat, ça veut dire que vous êtes plus complet, vous avez d'autres qualités. Mais ce n'est pas forcément pour ça que vous êtes meilleur que les gens. Il se peut qu'Allah Ta'ala aime une certaine chose dans une certaine personne et il fait que cette personne-là est donc meilleure que vous. Donc cet orgueil-là, ce takabbur et tafakhur, un moyen très simple, c'est tashakkur, remercier Allah Tabarak wa Ta'ala. Ensuite, il y a également une parole que les mouchriquins, ils disaient dans ce 14e douze, c'est quoi? وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Les associateurs, ils disent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ça veut dire, na'ouzou billah, ils disaient que si vraiment ce qu'on fait est interdit, ben Allah ne nous aurait pas laissé faire. Donc, ça c'est le raisonnement qu'ils adoptent. Donc, si Allah nous laisse faire ce qu'on fait, ça veut dire que c'est permis. Et tout simplement, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah dit, Allah Ta'ala, il a juste consolé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ne t'inquiète pas, كَذَلِكَ فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Les gens avant également, ils agissaient ainsi. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. N'incombe-t-il aux messagers, sinon de transmettre le message en toute clarté? Et l'explication de ça, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah alayhi, il donne et il dit que dans ce monde, Allah a donné à chacun d'entre nous une capacité. Il nous a donné l'intelligence. L'être humain, selon nos aqaïd, nos croyances des Ahlus Sunnah wal Jama'a, il n'est pas ce qu'on appelle majbour. Ça veut dire que ce n'est pas une pierre. Vous ne prenez pas et vous le mettez là. Si vous le mettez là, vous le mettez là, etc. Non. Allah Ta'ala t'a donné la capacité de comprendre, t'a donné l'intelligence. Donc maintenant, tu as le choix. Soit tu vas faire le bien et tu vas être récompensé, soit tu vas faire le mal, et là il y aura également la punition. Donc, et c'est dans l'au-delà, et effectivement, à un moment viendra où Allah Ta'ala, il enlèvera, il, on va dire, exprimera dans sa totalité sa puissance. C'est-à-dire personne n'aura plus aucune capacité de choisir. Ça c'est quand on arrivera dans l'au-delà, ça sera uniquement Allah Tabarak wa Ta'ala qui décidera de cela. Maintenant, on arrive à un autre point qui est assez important, qui concerne ce qu'on appelle le taqlid. Alors taqlid c'est quoi et c'est par rapport à quel verset? Allah tabarak wa ta'ala il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Nous n'avons envoyé avant toi au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on avait dit la dernière fois qu'à chaque fois on voit dans le Coran Sharif Allah ta'ala dit avant toi au prophète d'Allah, jamais Allah ta'ala va dire après toi, puisqu'après le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il n'y a plus de prophète à venir, ce qu'on appelle le khatme nubuwa. Donc c'est le dernier des prophètes et la première communauté inshallah qui entrera dans le paradis. Donc avant toi nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous avons fait des révélations, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et par rapport à cela, Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Ali, il développe justement ce thème de taqlid. Alors taqlid, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ceux qui ne savent pas vont demander à ceux qui savent. Et il dit que ça c'est quelque chose de logique. Et depuis les sahaba radiallahu anhum jusqu'à donc après, il y a toujours eu cette démarche. Même du temps des sahaba radiallahu anhum dans le Sahih al-Bukhari, Hazrat Mawlana Fazlur Rahman, notre professeur Cheikh al-Hadith Dam Barakatuhum, dans son Maqalat et Azamiyya, il a écrit un petit fascicule, quelques pages là-dessus, et il a donné la preuve également, c'était lors de la période du Hajj, il y a eu des sahaba radiallahu anhum qui ont questionné un autre sahaba radiallahu anhum parce qu'ils ne connaissaient pas le masla. Donc même entre les sahaba, il y avait certains qui étaient plus savants que d'autres. Donc ceux qui ne savaient pas, automatiquement ils demandaient à ceux qui savaient. Et c'est ça, on va dire, le taqlid. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans notre époque, plus on avance vers la fin du monde, on trouve de plus en plus de personnes et on trouve de plus en plus de dérives par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va prendre le Coran Sharif, on va prendre la traduction du Coran Sharif, on va prendre des hadiths et mubaraka, on va prendre des livres, on va prendre etc. Et on va dire, voilà, ben vous voyez, moi j'ai lu et c'est écrit ça. Donc je fais ma propre compréhension. Maintenant, par rapport à cette compréhension du Coran Sharif, Allah Ta'ala lui-même, il a dit que si vous ne savez pas, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Donc nous, ce qu'on fait, on fait taqlid. On fait taqlid de quoi et de qui? On fait taqlid du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers la compréhension de qui? De ce qu'on appelle les a'immam mujtahidin. Ça veut dire les quatre grands imams. Il y a eu quatre grands imams, on les appelle des mujtahid. Et un mujtahid, on avait dit la dernière fois dans un des tafsirs précédents, vraisemblablement dans le ayat wala takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dans le quatrième sibara. Une fois on a demandé à Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il faut pour être mujtahid? Déjà, il faut qu'on ait la connaissance de la langue arabe, il faut qu'on ait la connaissance de la grammaire arabe, de la syntaxe arabe, des proverbes arabes, de l'utilisation donc de l'arabe, tout ce qui a trait au Coran Sharif, à la sunna. Et également, donc il faut avoir un très haut degré de science, de piété, wara, même la piété, wara wa taqwa, plus haut que la piété, de s'abstenir de toutes les choses qui sont douteuses. Donc en dehors de ça, bien sûr, on a demandé à Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, est-ce que si quelqu'un il a la connaissance de 100 000 hadiths sharifs, est-ce qu'il pourra devenir un mujtahid? Il a dit non, ce n'est pas suffisant. Il a dit, est-ce que si la connaissance de 200 000 hadiths sharifs peuvent devenir un mujtahid? Il a dit non, ce n'est pas suffisant. S'il connaissance de 300 000 hadiths sharif, est-ce qu'il peut devenir mujtahid? Il a dit non, il ne peut pas. S'il connaît 400 000 hadiths sharif, est-ce qu'il peut devenir mujtahid? Il a dit, ben peut-être. Peut-être s'il connaît 400 000 hadiths sharif, il peut devenir un mujtahid. C'est pour ça, wallahu alam, mais dans notre époque, il n'y a plus de mujtahid. La porte, elle est fermée, à tel point que Hazrat Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il dit, regardez, déjà, d'une part, en général, on parle de ces quatre imams. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, en général, c'est notre croyance. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui qui était à Madina Munawara. Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc, ces quatre imams, ils n'étaient pas que quatre. Il y avait plus que ça. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, il a fait que dans le monde, ce sont leurs, on va dire, pratiques qui est la plus répandue. Et même entre eux, selon certains pays. Pourquoi? Parce que Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il était de Koufa, c'est-à-dire à Bagdad, etc., dans l'Irak. Imam Malik, rahmatullah, était à Madina Munawara. Et en fonction de ça, dans le monde, c'est ce paysage-là qui a donc été dessiné par Allah, tabarak wa ta'ala. Maintenant, il dit, regardez, après eux, et ce qui est important également, ce qui est très 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 important, c'est quoi? C'est que ces quatre a'immas-là, ils étaient dans une époque qui était extrêmement proche du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, est né en l'an 80 de l'Hégire et il est décédé en l'an 150 de l'Hégire. D'accord? Ce qui veut dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on va dire qu'il a quitté cette terre environ en l'an 13 de l'Hégire. Que l'Hégire a commencé à partir de l'émigration, lorsqu'il a quitté Makkah Mukarrama pour arriver à Madina Munawwara, et donc il a passé 10 ans, plutôt en l'an 10 de l'Hégire. Donc 70 ans après, il y avait encore des Sahaba radiallahu anhum, et les savants nous disent que Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, c'est un tabi'i. Ça veut dire quoi? Qu'il a rencontré les Sahaba, il a rencontré les gens qui ont vu et qui ont profité directement des enseignements du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui plus est, deuxième chose, c'est, ils étaient dans une époque que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit comme la meilleure des époques. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des époques, c'est mon époque, ensuite ceux qui viennent après et ceux qui viennent après. Donc ces deux éléments sont très importants. Et parfois vous avez des gens qui dans notre époque, comme on a dit parfois, on ouvre des livres, ou bien on ouvre des tafsirs, ou bien on connaît, on a certaines connaissances, on connaît la langue arabe, etc. Et nous, on se fait sa propre opinion. Alors maintenant, c'est le choix de prendre l'opinion des A'imma Mujtahidin, qui bien sûr, en termes de piété et en termes de proximité de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, était beaucoup plus grande que nous, ou bien de suivre notre propre opinion. Donc ce taqlid-là, c'est important. Deuxième chose, ou bien troisième chose très importante, Hazrat Mufti Shafi Sahib, rahmatullahi alayhi, il nous dit que dans la Umma, il y a eu des très grands ulama et des très grands muhaddis. Par exemple, hein, que vous avez peut-être déjà entendu, Imam Ghazali, rahimahullahu ta'ala, un savant arabe, un savant qui a écrit beaucoup de livres, beaucoup de ses ouvrages ont été traduits en français. Dans la Mazid également, nous avons ça, le civisme du musulman, revivification des sciences religieuses, Ihya wa Ulumuddin. Ce sont des très grands savants. Imam Ghazali, rahimahullahu ta'ala, Imam Razi, rahimahullahu ta'ala, qui a écrit Tafsir al-Kabir, Imam Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, Imam Tahawi, rahimahullahu ta'ala, Imam Muzami, Ibn Humam, Ibn Qudama, rahimahullahu ta'ala, qui sont des savants arabes dans le monde entier et d'autres également. Eux également, ils n'étaient pas mujtahid. Malgré la science qu'ils avaient, ils n'étaient pas mujtahid. Mais ils ont tous suivi, on va dire, aussi miryad qui est là qu'on ulama et salaf wa khalaf ba wujud ulum arabiyat wa ulum shariyat qui a'la maharat hasil honne ke et c'est ijtihadi masail mais hamisha aima mujtahid qui taqlid hi qui pa ban rahi. Même s'ils avaient cette science, lorsqu'il y avait des masail, des règlements où il y avait divergence, toujours ils suivaient un de ces a'imma mujtahidin rahimahullah ta'ala. Maintenant, Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi dit si dans l'époque, comme on a dit tout à l'heure, en dehors de ces quatre-là, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, il y en a eu d'autres, par exemple, il y a eu Imam Awza'i rahimahullah ta'ala, Faqih Abu Layth Samarqandi rahimahullah ta'ala. C'est également des imams qui étaient des mujtahid. Donc si quelqu'un il avait cette taqwa, il avait cette science, il avait cette crainte d'Allah tabarak wa ta'ala, alors lui, en voyant, on va dire, les différentes opinions basées sur le Coran et sur le Hadith, ça c'est très important, parce qu'il y a des gens qui parfois nous disent, ben non, vous ne suivez pas le Coran ou le Hadith. Non, on suit le Coran et le Hadith Sharif à travers leur compréhension qui est bien meilleure que la mienne et que dans notre époque en général, wallahu a'lam. Donc si ces personnes, il y avait d'autres mujtahidin, eux-mêmes, en voyant ces opinions, ils pensaient que celle-ci, elle est meilleure, qu'elle est plus proche, elle est plus proche de la sunna, alors lui, puisqu'il est mujtahid, lui, il a le droit de suivre. Mais on a vu les conditions qu'il faut par rapport à ça. Et de la même manière, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah, il a dit, et ça c'est très important, lorsque nous avons les quatre madhahib, ça ne veut pas dire que si on a pris le qawl de imam, l'opinion d'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, ça ne veut pas dire qu'on pense que celui d'Imam Shafi'i, c'est pas bon. Non, mais on pense que celui d'Imam Abu Hanifa rahimahullah, il a plus de chances d'être plus proche de la sunna, d'être plus proche du Coran, des hadiths et mubaraka, parce qu'il avait donc cette piété. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah a dit, c'est comme nous, dans notre époque, aujourd'hui on va voir un médecin. Et on a pris l'habitude d'aller vers ce médecin. Est-ce que ça veut dire que non, on est totalement contre les enseignements de l'autre médecin? Non, tout simplement parce qu'on a l'habitude, on va dire, on va, etc. Donc pour les a'imma mujtahidin rahimahullah ta'ala, c'est la même chose. Et donc Mufti Shafi Sahib rahmatullah ali, un peu en conclusion, brièvement il nous dit quoi? Pour nous, pour moi, il est nécessaire, il est wajib. Ça veut dire, de manière pratique, il est obligatoire de suivre l'opinion d'un imam. Maintenant, si quelqu'un va dire, oui, mais moi, Imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, par exemple, concernant le wuzu, Imam Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, il nous dit que si le sang coule d'une personne, alors le wuzu ne se casse pas, ne se rompt pas. Imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, dit que oui, ça se rompt. Maintenant, si on va dire, oui, ben moi, il y a l'opinion de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi. Il se peut que parfois, les trois d'entre eux, ou bien deux d'entre eux, ils aient la même opinion également. Mais toutes leurs opinions sont basées sur le Coran et sur les hadiths en baraka. Et on rapporte également d'eux que quoi? Qu'ils ont dit que si vous voyez qu'on a dit quelque chose qui va à l'encontre de la sunna ou du Coran, alors délaissez ma parole. Délaissez ma parole et suivez cela. Donc ça c'est développé dans un livre de Cheikh Mohamed Awama Damad Barakatuhum, un savant d'Arabie Saoudite. Donc maintenant si on a ces 2, 3, 4 opinions devant nous, on va se dire, tiens, ben moi je pense qu'effectivement le sang ne casse pas le wuzu. Et puis dans un autre mas'ala, plutôt que de prendre l'opinion de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, par exemple l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit que si il arrive qu'on touche une femme, alors le wuzu, ils seront également. Et maintenant, vous allez à Makkah Mukarrama, vous êtes en train de faire le tawaf. Et vous dites, ah ben non, là, il prend l'opinion d'Imam Abu Hanifa. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu suis dans ce cas-là la sharia ou tu suis ton nafs? Tu suis ce que tu as envie de faire. Si par exemple, demain, ton Idriss, Mufti, un tel, à moi même pas Mufti, il dit, oh, crevette, les bons. Et un autre moufti dit crevette, t'es pas bon. Quelle chose. Vous voyez, ce n'est plus itiba et sharia. C'est on va choisir ce qu'on a envie de faire. Donc là, les ulama, Imam al-Shahidi, rahmatullahi, il dit « Ittiba'i shayayat ka'anam lekat, ittiba'i hawa mi mubtala hoja. » C'est-à-dire, vous ne faites pas de din, on est en train de suivre notre nafs, on fait ce qu'on veut, ce qui me plaît. Et c'est pour ça, les savants, rahimahullah ta'ala, ils ont dit, les fuqaha, les muta'akhirin, yezaruri samajkar amal karne walon ko kisi ek hi imam mujtahid ki taqlid ka paban karna ja. Entre ces quatre-là, il faut qu'on prenne un. Pour ne pas tomber justement dans... Et subhanallah, c'est comme si, comme on a dit, c'est moi parce que j'ai envie, et c'est bien ça. Ce sont nos envies. Nous n'avons même pas de preuves pour dire, parce que nous n'avons pas de connaissances, ou très peu, mashallah, alhamdulillah, mais on n'a pas la possibilité de faire ça. De la même manière qu'il est dit que, Hadd Uthman radiallahu ta'ala anhu, à un moment, comme vous savez, le Coran Sharif, il a été révélé selon 7 variantes. D'accord, on avait expliqué ça dans le 27e Ramadan, l'année dernière, alhamdulillah, si je me trompe. 7 variantes. Bref, tout ça pour dire quoi? À un moment, lorsque les Sahaba, radiallahu anhum, ils ont quitté Madina, Makkah, Mukarrama, ils sont allés et, en Arménie ou en Azerbaïdjan, dans ces pays-là, il y avait d'autres musulmans qui lisaient le Coran Sharif selon une autre variante. Et lorsqu'ils ont rencontré ces musulmans-là, il a commencé à avoir une guerre. Il dit, ben non, ça c'est pas Coran que vous lisez. Il dit, non, c'est pas Coran que vous lisez. En ce moment, il a appris ça, il a dit, bon, pour éviter ce genre de fitna et de problème-là, il a fait un nusra, c'est-à-dire une copie du Coran Sharif qui a mis tout le monde d'accord. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il a dit, na'ouzou billah, que le Coran Sharif n'a pas été révélé. Non, mais pour éviter ce genre de problème et de fitna. Et ça, c'est un grand chapitre dans la charia qu'on appelle Saddan lilbab. Parfois, pour éviter de tomber dans des choses plus graves, Allah Ta'ala, il nous dit, mais ne faites pas ça. De la même manière, à Adam alayhi salatu wassalam, Allah n'a pas dit ne mangez pas de cet arbre-là, mais ne vous approchez même pas. Le zina, l'adultère, quand on demande de protéger le regard, Allah dit wala taqrabu zina. C'est-à-dire, même pas ne faites pas, mais tout ce qui va avant là, vaut mieux que vous vous abstenez, par peur justement de tomber là. Et dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également al halal bayyinun wal haram bayyinun. Le licite, c'est quelque chose de clair et d'évident. L'illicite également, wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Il y a plein de choses qui sont entre, qui parfois peuvent être dangereuses. Donc abstenez-vous de ça. Celui qui va s'abstenir de ça, Inch'Allah, il sera protégé. Donc voilà un peu en gros, en bref, pour le taqlid, on va dire. Et Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, il a écrit 2-3 pages. Et à la fin, il dit, pour ceux qui, alhamdulillah, ils ont la science et ils veulent approfondir ça, ils peuvent également se référer au kitab suivant de Allama Shatibi, rahimahullah ta'ala, kitab al-muwafaqat, le 4e volume, Babul Ijtihad, Allama Saifuddin Ahmadi, kitab al-ahkam al-ahkam, le 3e volume, al-qa'idatu al-thalitha fil mujtahidin, etc., etc. Ça, c'est dans Ma'arif al-Quran, le volume 5, à la page 348. Donc, tout ça pour dire que, et la facilité aussi pour nous, c'est là-dedans. Allah, tabarak wa ta'ala, demain, dans l'au-delà, il ne nous demandera pas. Si par exemple on a suivi l'opinion d'un imam et que cette opinion-là, même si l'imam s'est trompé, malgré tout Allah va le récompenser. Même si l'imam s'est trompé, malgré tout Allah va le récompenser. Pourquoi? Parce que dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que al-mujtahidu yukhti'u wa yusib, al-hakimu yukhti'u wa yusib. Ça veut dire parfois ils ont fait cet effort de réflexion. Et ne serait-ce que pour l'effort, Allah va les récompenser. Si leur raisonnement était correct, Allah leur donnera une double récompense. Mais même si ça n'a pas été correct, Allah leur donnera une récompense. Mais nous, en tant que simples, on va dire, musalli, en tant que muqtadi, on suit ça. Allah, il ne me demandera pas, oui, mais pourquoi dans tel masla tu as suivi tel... Non, ce sont eux qui vont être questionnés. Et Allah va les récompenser de toutes les façons. Donc, ce sont des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de travail pour la ummah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qu'il faut respecter. Et la simplicité, surtout, j'insiste, dans notre époque. Pourquoi? Parce que plus on va arriver vers la fin, normalement, inshallah, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mas'alas qui vont devenir de plus en plus faciles. Maintenant, c'est à nous de voir. Soit on va essayer de suivre notre nafs, ou soit on va s'attacher aux enseignements qu'on a eus, qui étaient bien, alhamdoulilah. Bien sûr, si c'est prouvé avec des arguments clairs, alors, alhamdoulilah, comme on est mujtahidin, rahimahullah ta'ala, on accepte ça. Mais de faire attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui parfois peuvent être créées par rapport à ça. Allah nous donne la tawfiq. Ensuite, par rapport au péché, dans un ayat du Coran Sharif, Allah tabarak wa ta'ala dit, la première page, ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils seront. Et ça, ce sont les qualités des non-musulmans. Et mon fils Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, il nous dit également que d'être comme ça, ça veut dire totalement négligent et inconscient de l'au-delà, ça c'est quelque chose qui est dangereux pour nous. Et même à travers ce ayat-là, vous voyez, être distrait par l'espoir. Yulhihimul amal. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi nous explique ça. Il dit d'avoir de longs espoirs à tel point qu'on n'a pas l'impression qu'on va quitter cette terre. Ça, c'est quelque chose également qui est dangereux. Il est dit en ce sens que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a quatre choses qui sont le signe de la malchance, si vous voulez. Premièrement, un œil qui ne pleure pas, c'est-à-dire on ne regrette pas les péchés qu'on a commis. Deuxièmement, un cœur qui est dur. Troisièmement, on a de longs espoirs. Et quatrièmement, d'avoir cette gourmandise et cette envie pour le dunya. Si quelqu'un il a ces quatre choses-là, un œil qui ne pleure pas, il ne regrette pas les péchés et les erreurs qu'il a commis, raflatun par nadim hokar narona, et il n'est pas, donc il ne pleure pas par rapport à ça, le cœur est sans Dieu aussi, il y a de longs espoirs, et le dunya, il a donc cette envie de ce dunya-là. Donc si quelqu'un il a ces quatre choses-là, malheureusement, c'est un mauvais signe. De la même manière, dans un autre riwayat, il est dit en ce sens, Mufti Shafi Sahib rahmatullah l'a mentionné à la page 280 dans le volume 5, que les premiers de cette umma ont été sauvés grâce à Iman et Kamil, à une foi qui était complète, et deuxièmement, le détachement de ce monde. C'est-à-dire, I'arad anil dunya, il n'était pas attaché à ce monde. À tel point que dans Hayat al-Sahaba, à un moment, il est dit qu'un tabi'in, un sahaba, ou bien un tabi'in, il a dit aux autres tabi'in, أنتم أشد صلاة وأشد صياما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous faites plus de namaz et vous faites plus de jeûne encore que les sahaba. Mais les sahaba étaient meilleurs que vous. Pourquoi? Parce que maintenant ils n'étaient pas attachés avec eux. Le akhirat, c'était subhanallah. Dès qu'il y avait une possibilité même de mourir pour atteindre le paradis, une fois un sahaba, radiallahu anhum, il était sur le champ de bataille, il était en train de manger des dattes. Il a demandé, Ya Rasulallah, si je deviens martyr, je vais où? Il a dit au paradis. Tout de suite, il est parti, fini. Parce que c'est vraiment, on vit par nécessité comme le bateau qui a besoin de l'eau, mais il ne faut pas que ça entre dans le cœur. Donc ça, cet amour pour le dunya-là, qui a été expliqué précédemment, entretenir de longs espoirs et également de faire attention, on va dire, par rapport à ces péchés-là. Ensuite, par rapport à la tazkiyah, les quelques qualités qu'on peut mentionner, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle du paradis et il nous dit que « Innal muttaqina fi jannati wa uyun » Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources « Udkhuluha bi salamin aminin » Entrez avec paix, en sécurité « Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin » Et Allah dit nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Et ils se sentiront frères, faisant face les uns les autres sur des lits. C'est-à-dire dans le paradis, ça sera vraiment des moments où il n'y aura que la paix, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus tout ça, et il n'y aura que illa qilan salam an salama. De la même manière, par rapport à cela, parfois, il peut y arriver que dans nos relations envers les autres, il y ait quelques petits désagréments, quelques petits conflits, etc. Allah dit, il arrachera, il enlèvera tout cela et nous serons comme frères. Et dans un autre verset du Coran Sharif, pour terminer la sourate Al-Hijj, Allah Ta'ala dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que les gens, ils critiquaient le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il a donné le remède à ça. Si vous également, vous ressentez parfois cette gêne à cause de conflits, etc. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Fais le tasbih, glorifie Allah Ta'ala par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Et adore Allah tabarak wa ta'ala jusqu'à ce que vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous donne la compréhension et la possibilité de pratiquer, inshallah, sur ces quelques paroles. Bref, juste pour terminer, on va dire là-dessus, conclure. C'est quoi? Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, comme on a dit. Et surtout, Allah Ta'ala, il mentionne beaucoup, beaucoup de bienfaits qu'il nous a donné dans cette ayat-là. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja, il vous a donné une épouse. Waja'alakum min azwajikum banin, de ses épouses, il a donné des enfants. Et de ses enfants, il vous a donné des petits-enfants également. Donc tout ça, ce sont des bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, il mentionne le bienfait par rapport au miel. On n'a pas pu développer. On avait, alhamdulillah, mis un article il y a quelques temps de cela. Et par rapport au lait également, comment est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans sa merveilleuse organisation, il a créé le lait dans la vache, etc. Donc Allah Ta'ala, il fait que tous ces bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous donne, on essaye toujours de remercier. Et ça, c'est une grande, grande, grande qualité de faire choukr pour tous les bienfaits qui sont liés à notre mondain et à notre religieux. Il ne faut pas oublier ça également. Allah nous pardonne et nous protège. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbana Taqabbal Minna.